Alors, le titre, c'est Gouverner de manière agile. Donc, je suis Catherine Philippe-Bernard. Bon, je dirai après qui je suis en détail. Bon, ce n'est pas mon logo, hein, mais c'est une image que j'ai utilisée. Vous verrez après pourquoi. Donc, ça, c'est les partenaires. Hein, c'est important de les remercier pour que ce type d'événement ait lieu et que vous puissiez rentrer gratuitement. Hein. C'est grâce à eux si vous pouvez être là gratuitement. Donc c'est important, hein, je ne vais pas tous les citer, parce que sinon je vais en prendre du temps, mais c'est important en tout cas de montrer les slides. Alors, je suis Catherine Philippe-Bernard, je suis coach agile, je travaille chez Orange, je suis aussi sophrologue formée à la sophrologie, je maîtrise les 12 degrés en sophrologie, et je suis aussi certifiée co-développement. Le co-développement, c'est une manière de faire travailler les gens ensemble pour s'améliorer ensemble dans leur pratique professionnelle. Alors, j'ai commencé par la gestion de projet et progressivement, je suis allée vers l'accompagnement d'équipe pour devenir coach agile. Alors, je suis aussi médium. J'ai voulu le mettre, c'est important pour moi, parce que je suis une personne, comme Albert Einstein disait, nous sommes des antennes. Nous ne sommes pas des ordinateurs. Nous captons des informations. Et le principe que je vais vous décrire repose un petit peu tout ça, c'est-à-dire que on est sensible à des informations, alors soit des informations qui émergent, soit des informations qu'on réceptionne, suivant comment on a envie de le dire. Donc c'est important pour moi de le mettre par rapport à cette conférence notamment. Et je suis passionnée de connaissance de soi, c'est pour ça que je suis allée vers la sophrologie. À un moment donné, j'ai eu besoin de comprendre comment je fonctionnais, comment les humains fonctionnent, comment on interagit, qu'est-ce qui fait qu'il y a des tensions, etc. Et que ce que je réceptionne avec mon corps est des fois différent de ce qu'on peut se dire avec sa tête. Et je suis aussi adepte de la non-violence, donc c'est en lien aussi avec la sophrologie, en lien avec la connaissance de soi. C'est pour ça que je vous ai mis un petit schéma. La non-violence, pour moi, c'est un verre qui est vide. C'est-à-dire que quand vous vivez quelque chose, vous n'en êtes pas directement affecté. Et du coup, vous n'avez pas besoin de réagir, vous n'avez pas besoin de nuire à autrui. Et moi, c'est ce que je recherche en permanence, c'est ça qui est précieux pour moi. Donc, je le recherche, j'ai eu l'occasion de l'expérimenter en sophrologie, en pratiquant la sophrologie, et j'ai eu aussi l'occasion de l'expérimenter mentalement. Donc, il y a des possibilités au niveau de notre façon d'interagir, d'être non violent. Comme le disait Gandhi, hein, quelque part, hein, qui était apôtre de la non-violence. Voilà. C'est ça le principe. Alors, pourquoi ce sujet? Parce que dans mon domaine professionnel, donc je pratique ce type d'approche, hein, de gouvernance agile, et aussi j'accompagne des équipes. Et à un moment donné, j'entendais parler de différentes méthodes, et j'avais l'impression que c'est de ce que j'entendais, hein, dans les croyances des gens, que ben, elles étaient pareilles. Et moi, avec ma perception corporelle, je sentais qu'il y avait des différences. Donc, à un moment donné, j'ai eu besoin d'avoir de la clarté, de la compréhension dans ce que je fais, parce que c'est important pour moi, quand j'accompagne les équipes, d'être au clair avec ce que je dis, avec ce que j'incarne et avec ce que je propose. C'est important pour moi. Et donc, j'ai eu besoin de revenir à la source, hein, le phénomène de source d'Einstein aussi. J'ai eu besoin de revenir à la source pour essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là dans certaines pratiques. Et donc, je me suis dit, je vais étudier les différentes approches et puis je vais le partager aux personnes qui auront envie d'entendre ma version. Je tiens à signaler que c'est ma version parce que c'est mon étude, donc je ne suis pas parfaite, hein, je suis un être humain, donc peut-être que j'ai fait des erreurs. Et si certains parmi vous me disent que j'ai fait une erreur, je serai ouverte pour le partage. Et pour autant aussi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que ce n'est pas exhaustif dans le sens que il y a beaucoup de littérature là-dessus et j'ai fait un choix spécifique de littérature pour pouvoir mener donc cette conférence. Et donc aussi, il y a la référence à Peter Koenig, si vous ne connaissez pas, qui parle aussi de la personne source. Il y a des vidéos sur Internet sur ce monsieur qui explique qu'une idée arrive à une personne. Et cette personne incarne cette idée jusque dans l'énergie de l'idée. Et c'est pour ça qu'elle est à même de porter cette idée. Bien sûr, des personnes peuvent se greffer à elle, hein, par rapport à son idée, son projet. Mais si cette personne-là prend pas sa place, c'est ce qu'il explique à, hein, Peter Koenig, et pour l'avoir vécu, je confirme, d'expérience, si la personne ne prend pas sa place, l'idée se meurt. Alors, l'objectif de cette conférence est de répondre à ces trois questions. Qu'est-ce que c'est que gouverner de manière agile? Les différences significatives entre quatre principaux modèles, et aussi si vous avez envie d'adopter une approche plutôt qu'une autre, enfin une méthode, on va utiliser le terme méthode plutôt qu'une autre, qu'est-ce qui serait bien de faire pour vous, pour vous situer par rapport à ces quatre méthodes que vous verrez qui sont relativement différentes dans la philosophie. Alors quand je me suis lancée dans ce sujet, je me suis dit ça va être assez facile, je vais pouvoir faire des tableaux pour pouvoir dire celle-ci elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, mais c'est pas aussi simple que ça. Donc au fur et à mesure que je mettais en œuvre mon étude, je me suis rendu compte que je m'étais lancée à un gros challenge, mais pour autant je vais essayer de vous donner le message principal, et c'est pour ça que je vais vous inviter, parce que c'est aussi le cœur de ce type de méthode, je vais vous inviter à écouter et pas forcément trop à regarder les slides. Parce que vous allez voir beaucoup d'éléments d'information. Et pour autant, l'essentiel, c'est d'écouter ce que je vais vous en dire. Parce que de toute façon, vous n'aurez pas le temps de tout lire. Mais moi, je vais vous dire vraiment ce qui est important. Alors, qu'est-ce que c'est que gouverner de manière agile? Ben, au niveau de l'agilité, vous devez certainement connaître le cercle d'or de Simon Sinek. Et pour moi, c'est la base de l'agilité, hein. Donc Simon Sinek dit qu'en gros, les clients, ils n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Donc il dit que le rêve est un puissant vecteur, porteur d'impacts positifs, etc. Il suscite l'intérêt et l'envie de se surpasser pour atteindre ses objectifs. Les gens, donc, n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Le pourquoi, c'est l'équivalent de la raison d'être de la gouvernance agile. À quoi je sers? Quelle valeur ajoutée? Qu'est-ce que j'apporte au monde? C'est le pourquoi. Avant le quoi qui est le produit et aussi avec le comment, on va voir quand même que c'est lié, la manière de produire. Donc en gros, ce qu'il explique, c'est si au niveau marketing, vous ne parlez que du quoi, vous ne vendrez pas votre produit parce que ça ne va pas intéresser les gens, parce que ça ne va pas les inciter à l'acheter. Et pour ça, il y a une vidéo YouTube qui l'explique très bien. Il explique que le pourquoi et le comment sont reliés au système limbique, qui est le système des émotions, qui fait justement, comme je vous dis, au niveau corporellement, on le sent ou on le sent pas. On va aller vers ça ou pas, parce qu'on le sent ou on le sent pas. Et donc, c'est le système limbique qui permet ça et qui est relié au pourquoi, au comment. D'ailleurs, les enfants, quand ils sont petits, je sais pas si vous avez remarqué, souvent ils disent pourquoi, à un moment donné. Pourquoi la Terre est ronde? Pourquoi il y a des étoiles? Voilà. Alors, ça passe dans leur construction, donc ça fait partie aussi de comment on fonctionne. Et donc, le quoi est relié au néocortex, hein, au niveau du mental, et donc c'est plus les pensées rationnelles, analytiques, le langage. Et donc, si vous ne faites qu'utiliser des mots pour vendre un produit, ça ne suffira pas à attirer le client. Alors, qu'est-ce que l'agilité? Donc, toujours en se basant, hein, tout repose, vous verrez, hein, au niveau de l'approche, tout repose finalement sur ce cercle d'or. Donc, l'agilité, c'est quoi? C'est le pourquoi vient de notre état d'esprit, hein, comment on est, comment on fonctionne. Et donc, le comment, c'est plutôt comment on fait les choses, c'est plutôt les valeurs et les principes. Bon, ici, c'est celle du manifeste agile, mais on verra qu'il y a plusieurs autres manifestes possibles. Vous pouvez même créer votre propre manifeste, hein, si vous en avez envie. Et donc, le quoi, hein, ce que je fais, ce sont les pratiques et les méthodes que j'utilise. Donc les pratiques, par exemple le rôti, que vous avez pu utiliser si vous avez été ce matin à une conférence dans la salle à côté, ou alors les méthodes, hein, Scrum aussi, il y avait une conférence aussi sur Scrum, voilà. Et puis j'aime bien aussi la citation d'Olaf Lewitz, parce qu'elle va dans le sens de ce que je vais vous proposer. L'agilité est un moyen de trouver des solutions émergentes dans un environnement qui se veut de plus en plus complexe, hein, le fameux environnement VUCA par exemple. Il s'agit d'une approche évolutive de l'innovation et de la croissance respectant les gens qui créent la valeur. Ça, c'est très important. On ne fait pas que de livrer de la valeur ajoutée, on respecte aussi ceux qui réalisent. C'est important. Pour moi, ça fait partie de l'agilité. Si on oublie cette partie de la phrase, on ne fait pas de l'agilité. On fait de la production, pas de l'agilité. Et donc, bien utilisée, elle inspire et facilite une transformation des mentalités, des cultures dans une organisation apprenante. Et on va voir par rapport aux différents modèles, par rapport au modèle source du tout début, ce que ça a amené, et petit à petit, comment ça a été mis en place et qu'est-ce que ça apporte de différent par rapport justement à ce respect des individus. Et ici, je vous ai mis une photo que j'ai réalisée tout au début quand j'accompagnais les équipes, quand je voulais expliquer c'est quoi l'agilité. Donc l'agilité, c'est pas une méthode, c'est pour ça que j'ai mis en jaune fluo. L'agilité, c'est pas une méthode, c'est un ensemble éventuellement de méthodes dont vous avez par exemple Scrum, des méthodes semi-agiles ou perçues comme agiles comme le Kanban. Et donc à un moment donné, vous avez en 2001, je crois, des personnes, enfin des experts dans le domaine de l'informatique, 17 experts qui se sont réunis pour essayer de voir ensemble comment on pouvait traduire cette manière de fonctionner dans le domaine de l'informatique, donc sous forme de valeurs et de principes, le fonctionnement de l'agilité. Et c'est pour ça que vous avez le manifeste Agile qui repose sur la communication, un produit utilisable, la prise en compte des changements et aussi la collaboration avec le client plutôt qu'un contrat signé en quelque sorte. Et vous avez aussi d'autres manifestes qui sont intéressants. Par exemple, Alistair Cockburn, qui a fait partie des 17 experts, a ensuite redéveloppé un autre manifeste agile qu'il a appelé le cœur de l'agilité parce qu'il a estimé que l'agilité était trop interprétée et ne revenait pas justement au cœur de cette agilité qui est de pouvoir échanger ensemble, communiquer ensemble. Et il estime que si dans une équipe, on n'est pas capable de dire ce qui fâche, c'est qu'on n'est pas agile. Et c'est très important tout ça parce que ça repose du coup sur notamment les méthodes pour gouverner de manière agile. Voilà, puis vous avez d'autres manifestes qui existent, le moderne agile, l'agilité radicale, ça je vous inviterai à aller voir sur Internet, je vous ai mis des liens. Et donc, l'agilité aussi, il est important de dire, repose sur quatre dimensions, qui est donc la dimension de la posture, pourquoi on agit de telle manière, donc une dimension plus comportementale, qui amène aussi à la coopération ou pas, en fonction de comment on fonctionne justement. Ensuite, vous avez, quand on s'éloigne du pourquoi pour aller vers le quoi, vous avez le domaine de la stratégie qui permet de porter la vision, qui permet de porter aussi la raison d'être pour une gouvernance agile. Vous avez l'aspect organisationnel qui, là, justement, va s'intéresser à la gouvernance. Et d'ailleurs, c'est à ça qu'on va s'intéresser, pour cette conférence. Et vous avez donc le quoi, l'opérationnel. Mais vous verrez que le stratégique opérationnel, en fin de compte, les quatre font partie des modes de gouvernance. Ils sont pris en considération, toutes les quatre dimensions sont prises en considération. Donc l'opérationnel, c'est le fait de livrer petit à petit. Donc par exemple, c'est les méthodes Scrum, etc. Alors, je vous ai mis aussi ce fameux dessin avec le fruit parce qu'à un moment donné, j'accompagnais une équipe donc, qui utilisait ce type d'approche et j'avais du mal à leur expliquer que le cercle ancrage, en fin de compte, c'est le centre de l'approche, mais c'est aussi un cercle. Donc, le cercle ancrage, il ancre la pratique, donc c'est le centre de l'approche, mais en même temps, il englobe. Donc, c'est une partie du tout et c'est le tout qui englobe aussi les sous-cercles. Donc, c'est le noyau, mais c'est aussi le fruit. Donc, quand vous plantez un noyau, vous obtenez un arbre avec des fruits, etc. Donc le cercle ancrage, si vous entendez l'appellation cercle ancrage dans les gouvernances dont je vais vous parler, vous pouvez vous dire que ça fait partie du noyau, c'est-à-dire qu'au début, vous avez le cercle ancrage qui porte la raison d'être, ou la vision, suivant comment on l'appelle. Et petit à petit, il y a des rôles qui vont se définir par rapport à cette vision pour réaliser les missions et atteindre les objectifs. Et ces rôles, après, vont pouvoir aussi être accompagnés d'autres personnes et donc créer des cercles, etc., etc. Donc, ça part d'une personne. Et ici, vous avez sur ce schéma le cercle sponsor, dont je vous parlerai dans une des approches qui est la gouvernance adaptative, qui dit que quand un projet fonctionne en mode gouvernance, il est important qu'il soit associé à un cercle sponsor, en tout cas dans la gouvernance adaptative. On verra ça par la suite. Donc retenez ça, le cercle ancrage, si vous entendez ce terme, c'est le noyau, mais aussi le fruit qui contient les autres cercles. Ensuite, donc là, on va rentrer dans les détails des comparaisons entre les différents modèles. Et j'ai pris le parti, parce que je l'ai lu aussi dans la littérature, d'appeler ça les sociocraties, parce que vous verrez que la source, c'est la sociocratie à la base. Après, vous avez d'autres modèles qui ont vu le jour, comme l'holacratie, la gouvernance adaptative, mais aussi la gouvernance partagée de l'UDN sur laquelle je vais m'appuyer. Et donc, dans ce domaine des sociocraties, on peut parler de sociocratie un petit peu comme les démocraties. Vous avez plusieurs types de démocratie. Ben là, vous avez plusieurs types de sociocratie. Alors, revenons à la source, hein, de cette approche de gouvernance agile des sociocraties. Donc, la première personne qui a créé ce terme, hein, sociocratie, la source, c'est Auguste Comte. Auguste Comte est un philosophe français, un apôtre de l'humanité. Il était très axé humanité et il essayait d'apporter en quelque sorte un autre modèle différent de la démocratie. Voilà. Donc il est considéré comme le père de la sociologie aussi. Et il a mis en place le positivisme. Le positivisme, de ce que j'en ai compris, c'est vérifier ce qu'on pressent en quelque sorte dans nos fonctionnements au travers de la science. Alors, c'est français, hein, ça vient de France, hein, finalement, la sociocratie. Ensuite, donc, ça a été exporté en Hollande et c'est Kees Boeck qui avait une école et qui s'est appuyé notamment sur l'approche des Quakers. Les Quakers étaient une communauté, enfin une société des amis exactement, et qui avait tendance à fonctionner justement en réunion. On va voir que les réunions sont très importantes dans ce genre de modèle. Pouvoir communiquer et surtout pouvoir intégrer chacun, chacune de manière équivalente. Hein, c'est vraiment leur approche. Hein. D'ailleurs, ils ont beaucoup œuvré dans le social, apparemment aux Amériques et aux États-Unis. Et donc, Kees Boeck, qui était pareil, un humaniste profond, hein, qui était d'ailleurs contre les démocraties finalement, s'est inspiré de cette approche pour le développer dans son école afin que chaque personne, enfin chaque élève de son école, soit en mesure d'exprimer comment il ressent les choses, d'exprimer son consentement ou pas. Et donc Gérard Hendenberg a été l'un de ses élèves. Il a récupéré la société familiale. Il était aussi ingénieur. Il était spécialiste dans des systèmes biofeedback, puis je ne sais plus le deuxième, enfin bref. Du coup, il s'est inspiré de ça, de ce qu'il avait vécu dans l'école et de ses compétences en système pour pouvoir développer et moderniser la sociocratie. C'est une méthode qu'il a développée pour pouvoir l'appliquer à son entreprise afin de considérer chaque personne de son entreprise. C'est un petit peu un système familial, on pourrait dire ça comme ça. Pour pouvoir pour autant livrer et faire en sorte que les clients soient satisfaits bien sûr hein, du travail qui est réalisé. Ensuite, donc cette méthode d'Hollande s'est exportée aux États-Unis. Donc Robertson a étudié avec son entreprise plusieurs méthodes d'intelligence collective, dont la sociocratie, en compagnie d'une personne qui, alors je crois que c'est John Buck, je crois, qui avait été formé auprès de Hendenberg. Et donc, il a développé, lui, son approche qu'il a appelée holacratie. Ensuite, cette approche, donc, a été exportée notamment en France au travers de Bernard Marie, qui a la société Iggy Partners. Et vous pouvez trouver, donc, cette BD qui a été réalisée pour expliquer c'est quoi l'holacratie. Et puis vous avez d'autres méthodes hein, qui ont vu le jour après, donc la gouvernance adaptative hein, qui a été expérimentée chez Orange dans mon entreprise, donc qui a été mise au point avec Stéphane Yvan et aussi Michael de la Fabrique. Et donc ils ont écrit un livre qui est très très bien fait, soit dit en passant. Et aussi vous avez l'université du Nou. Bon, nous on les connaît parce que On a été formé aussi par eux au travers d'un cook qu'ils proposent sur la posture de coopération. Et pareil, hein, ils ont décrit leur propre approche. Alors, ils disent qu'ils expérimentent la gouvernance partagée et qu'ils l'essaiment dans les différentes entreprises. Et pareil, ils viennent d'écrire un livre qui est sorti là tout récemment en février, que je vous ai mis là. Donc, vous voyez, je me suis inspirée pour cette étude de ces livres-là en jaune, hein, que vous voyez, et aussi des sites sur la sociocratie, parce qu'à une époque, il n'y avait pas trop d'informations sur la sociocratie. On commence à voir fleurir, hein, parce qu'il y a de plus en plus d'organismes qui diffusent aussi l'approche sociocratique. Et j'ai vu qu'il y a un livre qui va sortir là, Chaque voix compte, qui peut être intéressant aussi à parcourir. Et je me suis un petit peu aussi intéressée au livre de Robertson que j'avais pour aller vérifier certains éléments d'information. Donc, mon étude va porter là-dessus. Pour autant, ah, il y a des petits pas. Pour autant, il y a aussi d'autres approches hein, qui sont proposées. Maintenant, vous avez différentes approches sur la gouvernance. Vous avez la sociocratie 3.0 qui a un ensemble complet d'outils. La démarche Z est très intéressante aussi. Moi, je me suis inspirée. Ce que j'aime bien dans la démarche Z, c'est qu'il découpe ça en espaces. Espace rêve, espace réalisation, etc., etc. Et je trouve ça très important, enfin très intéressant pour faire comprendre l'approche à des personnes qui connaissent pas du tout quand on fait de l'accompagnement. Moi, j'ai développé justement un atelier sur la sensibilisation à ce type d'approche, mais sans utiliser des concepts. Et je me suis beaucoup inspirée de la démarche zen qui est libre d'accès hein, sur Internet. Et j'ai vu dernièrement qu'il y avait la sophocratie qui s'intéresse cette fois-ci à la gouvernance de la sagesse collective. Bon, je ne suis pas allée voir dans les détails, mais ça peut être intéressant aussi à parcourir. Et apparemment, il y a un livre qui existe que je n'ai pas étudié, mais qui existe. Et vous voyez en haut, j'aime bien ce cercle aussi, le cercle ancrage, hein, où vous avez, enfin, c'est la sociocratie qui l'exprime comme ça. Donc, vous avez le cercle ancrage de, donc, le domaine de la sociocratie. Et à l'intérieur, vous avez différents modèles de sociocratie. C'est pour ça aussi qu'on peut se permettre d'appeler ça des sociocraties. Et d'ailleurs, ce modèle, le premier, l'a appelé sociocratie 3.0. Alors maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet. Donc, je vais passer ça, je vais essayer de passer ça assez rapidement parce que vous verrez, il y a beaucoup d'informations sur mes slides. Mais c'est pour ça que je vous demande d'écouter parce que moi, je vais vous dire l'essentiel. Parce que si vous lisez, vous allez vous perdre en chemin. Ce qui est important au niveau de la sociocratie, c'est que c'est vraiment un système, entre guillemets, familial et du coup, c'est vraiment un art de vivre ensemble. Bon, on verra comment ça se met en place hein, dans l'entreprise. Et donc, son fondateur considère ça comme une méthode vide, dans ce sens qu'il va apporter une structure à l'entreprise, mais que la manière dont les gens vont s'auto-organiser appartiennent aux gens qui vont s'auto-organiser, qui réalisent. Donc, il laisse les points pouvoirs de l'organisation et aussi, il prône, comme l'approche des Quakers, hein, l'équivalence des utilisateurs. Chacun a la même place dans la structure. Il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur ou inférieur à quelqu'un d'autre. Donc, l'intérêt que je porte à autrui est le même intérêt que je porte à moi-même. Alors, dans son approche, Gérard Underberg, se base sur l'équivalence donc des individus et aussi sur le principe de consentement, à savoir que quand on prend une décision, il est important que tout le monde soit d'accord en ce sens que tout le monde ne dise pas forcément oui, hein, comme en démocratie ou comme en consensus, mais n'ait pas de non à apposer. Donc que ça ne touche pas les limites soit individuelles, soit du système, qu'il n'y ait pas de risque, si vous préférez, à une proposition qui serait faite. Donc, il appelle ça aussi une théorie systémique de l'activité humaine, parce qu'on verra par la suite que l'activité humaine est vue comme un organisme vivant, et donc comme il s'appuie sur ses connaissances en systémique, il appelle ça une théorie systémique de l'activité humaine. Donc, ça prône le domaine de la pratique, hein, c'est-à-dire que les gouvernances de ce type se pratiquent, hein, ce ne sont pas juste des concepts qu'on apprend, c'est vraiment des mises en pratique. Et d'ailleurs, j'ai pu l'observer moi-même, c'est que quand on pratique ce type de méthode, ça nous transforme intérieurement. Et des fois, sans qu'on s'en rende compte, consciemment. C'est qu'après, par la suite, on s'aperçoit qu'effectivement, on a développé des nouvelles façons d'être, des nouvelles façons de faire. Donc, c'est vraiment du domaine de la pratique et donc de la connaissance, de l'expérience, hein, dans le sens où c'est des approches qui permettent d'être apprenante au travers des approches, enfin, du principe d'essai-erreur. Quand on fait des essais, on fait des erreurs et donc on apprend. Donc, ça apporte de la connaissance. Et aussi, ce qui est important de dire, c'est que ce sont des personnes qui ont une intention commune. Comme il est dit dans la démocratie, ce sont des personnes qui prennent une décision, mais qui n'ont pas forcément de lien direct entre elles. Elles ne sont pas forcément reliées par quelque chose. Par contre, pour la sociocratie, les personnes se basent, donc la définition se base sur le socio. C'est le socio, ça veut dire que les personnes ont un lien, un intérêt commun ensemble, donc une intention commune. Ensuite, donc là, il explique hein, que c'est une méthode vide. Hein, voilà, donc qui indique qui propose une mise en place de structure en laissant les utilisateurs libres de remplir les détails, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et aussi, ça repose sur le postulat d'une confiance naturelle en la capacité des êtres humains à s'auto-organiser, dans le sens où il a été démontré, bon, par plusieurs individus, que les systèmes vivants s'auto-organisent naturellement pour pouvoir survivre dans un monde continuellement en changement. Et donc, il dit que les êtres humains sont aussi des organismes vivants et donc ils ont cette capacité naturelle de s'auto-organiser. Et du coup, ça repose là-dessus, sur cette confiance que les êtres humains seront capables, seront intelligents entre eux pour s'auto-organiser, pour gérer leur survie. Donc les conditions favorables pour ce type d'approche sociocratique, c'est donc l'équivalence et c'est aussi et surtout le maintien en continu de cette équivalence et donc d'apporter les conditions nécessaires pour maintenir cette équivalence entre les différents membres de cette approche sociocratique. Et aussi évoluer de manière alors, qu'est-ce que j'ai mis ici? Évoluer de manière à travailler ensemble en s'inspirant. Oui, alors là, c'est toujours le fait que les utilisateurs sont complètement libres à 100% et donc ils sont libres d'évoluer par eux-mêmes en utilisant des approches de leur choix. Ils s'auto-organisent et donc aussi avec les outils. Parce que vous verrez que l'approche sociocratie ne définit pas du tout la manière de fonctionner, par exemple, quand on fait une réunion. Il n'y a aucun processus qui le définit. Pour d'autres approches, ce n'est pas le cas, hein. Pour d'autres approches, c'est vraiment défini comment la réunion doit se dérouler. Et donc là, bon, ce qui est dit, c'est que l'humain prime en premier, hein, c'est-à-dire que l'humain est un système vivant, donc il a des besoins et des limites. Et c'est en ce sens qu'il est important de considérer les besoins et les limites au travers, par exemple, du consentement et des objections que les humains pourraient apporter par rapport à ses propres limites, par rapport à leurs propres besoins. C'est important de le prendre en considération. Et donc, comme je vous disais, hein, ils sont équivalents, ils sont ni inférieurs, ni supérieurs entre elles, mais aussi par rapport à l'organisation dans laquelle ils sont amenés à fonctionner. Donc, ça repose sur la confiance mutuelle hein, entre les individus qui, du coup, comme ils prennent des décisions ensemble à l'unanimité, ben ça va conduire inévitablement vers le projet parce que quand on est tous d'accord pour faire quelque chose, on ne peut que progresser ensemble. C'est en ce sens hein, que c'est dit. Par contre, si par exemple vous êtes dans des approches où les gens ne sont pas d'accord pour fonctionner ensemble et ils n'ont pas le moyen de l'exprimer, peut-être vous avez entendu l'expression les rameurs et les barreurs, vous aurez toujours des gens qui ne participeront pas à 100%. C'est ça hein, l'idée derrière. Et aussi repose sur la simplicité, en ce sens que les règles qui sont définies entre les individus doivent être super simples, tellement simples qu'un enfant doit être en mesure de la comprendre. Voilà, donc ça fait partie des principes. Voilà, et puis il explique que quand les individus n'arrivent pas à trouver un consensus entre eux, ça veut dire qu'il ne faut pas faire évoluer la situation pour le moment. S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est parce que pour le moment, c'est pas prêt à évoluer pour X raisons, mais que du coup, il faut aussi le considérer dans le mode de fonctionnement. Donc, il y a trois règles fondamentales, l'intérêt de tous les membres hein, par rapport justement à l'équivalence, des solutions recherchées que tout le monde accepte par rapport au consentement et être prêt à agir conformément aux décisions. Là, ça demande un engagement personnel quand on est dans ce type d'approche. Vu qu'on est d'accord unanimement, ça veut dire qu'on est prêt ensemble à fonctionner. Et ce qui est important aussi pour cette méthode, parce qu'il est dit par certains écrits que lorsqu'on fait partie d'un groupe, on doit quelque part oublier une partie de soi-même, ne pas être complètement soi pour appartenir à ce groupe. Et là, l'approche sociocratie, en fin de compte, concilie ces deux besoins que Maslow a définis avec sa pyramide là. Et justement, dans le mode de fonctionnement sociocratique, il est possible que les individus soient libres d'être qui ils sont pleinement, sans être jugés, sans être considérés d'une manière différente, tout en appartenant à un groupe. Ça gère vraiment les différences des individus qui forment ce groupe. Alors, aussi donc l'approche forcément favorise l'émergence d'une culture de posture de coopération qui permet la sécurité des systèmes, de l'organisation, mais aussi de l'individu. Et donc cette structure repose sur des règles de fonctionnement, d'autorégulation, d'engagement, de créativité et de pérennité des projets, puisque quand on s'engage et qu'on est créatif ensemble, ben forcément ça apporte du positif au niveau des projets. Et aussi, ce qui est important, bon, bien sûr, la transparence totale, comme la valeur agile, mais aussi, ce qui est important, c'est la rémunération juste dans ce type de modèle. C'est-à-dire que comme les individus sont considérés de manière juste, ils ont forcément un mode de rémunération juste. Et donc, ce qui est dit aussi, c'est que être écouté, réellement pris en compte, ça donne du sens à son travail. Souvent, quand il y a une perte de sens, c'est parce que justement, on est dans un système qui n'écoute pas ce que certains ont à exprimer. Et tandis que pour ce type d'approche, donc le fait d'être écouté, justement, ça permet de donner du sens à ce qu'on fait et de se mobiliser pleinement. Donc la méthode, pour autant, d'après Pierre Tavernet, la méthode est indépendante du chef, contrairement, peut-être vous avez entendu l'expression « les entreprises libérées ». Moi, je sais qu'au début, quand je me suis intéressée à ces gouvernances, je parlais beaucoup, je pensais beaucoup que c'était un type d'entreprise libérée. Or, ce n'est pas le cas parce que Pierre Tavernet explique que dans les entreprises libérées, puis c'est décrit dans des livres, c'est des modèles d'entreprise où quelqu'un qui dirige choisit de libérer en fin de compte la structure. Tandis que là, c'est vraiment un modèle qui vient se figer sur un système où il y a une forme de hiérarchie et pour autant qui rend libre. Donc c'est indépendant du chef, c'est pas le chef qui décide comment les gens doivent fonctionner. Donc, trois principes en sociocratie, donc l'équivalent des membres, le sentiment d'appartenance du fait qu'on fait partie d'un projet partagé et aussi le dispositif de mesure. Ce n'est pas pour autant qu'on laisse les gens libres de faire ce qu'ils font qu'on ne vérifie pas derrière si ça atteint les résultats des objectifs de l'entreprise. Donc, il y a aussi le système de mesure qui est mis en place pour vérifier que justement ce système est cohérent et fonctionne. Donc la sociocratie repose sur quatre règles qui sont reprises par les différents modèles qui sont donc la décision par consentement avec zéro, donc objection. Pour autant, les décisions qui sont prises par rapport à ce système, ça concerne les politiques et les stratégies de l'entreprise, car les décisions opérationnelles qui sont faites au plus proche de la réalisation sont prises par les gens qui réalisent au moment où ils réalisent. Voilà, donc le consentement repose sur l'écoute, la transparence, ça il me semble que je l'ai déjà dit, et le respect mutuel des uns et des autres. Et donc, quand tout le monde consent, il n'y a pas de frein dans la mise en œuvre de ce qu'on est en train de réaliser. Alors, la sociocratie repose aussi sur la notion d'animateur. Peut-être pour les pratiques en gouvernance, vous avez entendu parler de facilitateur. En sociocratie, ils n'utilisent pas ce terme, ils utilisent un animateur. Et l'animateur doit permettre aux gens de s'exprimer, notamment sur l'approche du consensus avec les objections, de s'exprimer pleinement. Ils disent aussi dans la sociocratie, parce que certaines méthodes vérifient si une objection est valide. En sociocratie, c'est pas nécessaire de la vérifier. pour le simple fait que si on écoute une personne qui s'exprime, si on l'écoute librement, et si à un moment donné, ce n'est pas une objection, mais que c'est juste une préférence, dans la mesure où elle a été entendue, elle va lâcher sa préférence. Et donc, ce ne sera plus une objection. Donc, il n'y a pas besoin d'aller vérifier si elle est valide ou pas valide. L'écoute permet vraiment de ça, de vérifier si c'en est une ou pas. Et donc, c'est le rôle de l'animateur qui doit donc permettre aux gens de s'exprimer, mais aussi permettre aux gens qui écoutent d'entendre et de comprendre ce qui est dit. Donc, c'est vraiment une autre notion que de la facilitation, hein. C'est pour ça que, certainement qu'ils appellent ça animateur dans l'approche. Et donc, il y a des expressions qui sont utilisées, hein, par Gérard. Si la personne n'est pas en moyen de vivre avec, ou si la personne n'est pas en mesure d'assumer les conséquences d'une proposition, elle va pas donner son aval, elle va dire non. Voilà. Et donc, c'est un mode d'organisation horizontale et verticale, dans ce sens où vous avez la verticalité de la hiérarchie, en quelque sorte, et vous amenez une structure horizontale qui permette aux gens, au travers de réunions, justement, d'interagir et de s'écouter et de s'exprimer entre eux. Voilà, c'est ça qui amène l'horizontalité. Puis on verra que pour une autre approche, celle de l'UDN, il y a une troisième dimension qui est la profondeur. Alors, dans les autres règles, vous avez les cercles, hein, l'organisation en cercle. Les cercles sont responsables de définir leur vision qui équivaut à leur raison d'être. Hein, pourquoi ce cercle existe? Pourquoi ce rôle existe? Pourquoi ce cercle existe? Qu'est-ce qu'il apporte de plus, de différent? Et aussi les missions qui vont permettre de réaliser donc cette vision, et aussi les objectifs, hein, qui sont délégués, parce que vous avez le cercle ancrage, après vous avez des cercles qui se mettent en place avec les différents rôles qui émergent du fonctionnement, pour lesquels il y a une nécessité de mettre en place cette activité, qui peut être donc élargie à un cercle s'il y a plusieurs personnes. Et pour autant, c'est le cercle ancrage, hein, qui détient les objectifs à mettre en œuvre, et donc il est important que les cercles de niveau inférieur réalisent aussi ces objectifs. Donc leur fonctionnement doit être en adéquation avec les objectifs du cercle ancrage ou supérieur. Alors il n'y a pas d'exclusion, chaque membre doit appartenir à au moins un cercle. Donc, la sociocratie n'explique pas comment animer les réunions, dans la mesure où elle laisse plein pouvoir aux gens qui réalisent de fonctionner comme ils ont envie. Il y a la notion de double lien. Le double lien, ce sont deux rôles. C'est ce qui permet de faire le lien entre deux cercles. Donc, vous avez le cercle supérieur, et enfin, ils appellent ça comme ça, le cercle supérieur, le cercle inférieur, le supercercle, le sous-cercle. Voilà, il y a différents termes qui sont mis en place. Le cercle amont, le cercle aval. Quoi qu'il en soit, c'est vous avez le cercle ancrage, après vous avez des sous-cercles, et dans les sous-cercles, vous avez encore des sous-cercles qui peuvent se mettre en place. Et donc, le double lien, ça permet de faire le lien descendant ou ascendant entre deux cercles, supérieurs ou inférieurs. Et donc, Edinburgh dit qu'une seule personne pour faire la communication et risque de difficultés et de confusion. Donc, il y a une personne qui s'occupe de la communication descendante et une autre qui s'occupe de la communication ascendante. C'est pas le cas de tout le monde. L'équipe sociocratique, donc, comprend, hein, le cercle, on appelle ça l'équipe, on appelle ça une équipe sociocratique, et donc elle a des rôles structure, qui est l'animateur, le secrétaire de réunion qui prend les notes, hein, en réunion, et le représentant de l'équipe qui est justement le deuxième lien, qui remonte les tensions au cercle supérieur quand le cercle inférieur ne sait pas gérer ses tensions. Je vais essayer d'aller plus vite parce que là, il me reste plus beaucoup de temps. Ça, je vais pas vous le dire. Alors, l'holacratie, donc, est inspirée de la sociocratie. Pour autant, elle a un caractère, vous allez voir, plus opérationnel et formalisé. On va voir, c'est rien que dans le terme, hein, moi j'aime bien les termes, ça, quand j'ai préparé ça, ça m'a un petit peu bousculé. C'est un système d'exploitation complet. Et vous allez voir que le fonctionnement est vraiment différent de l'holacratie. Donc, ça vient des termes holos et kratos. Et c'est fondé sur la mise en application de l'intelligence collective, Ils estiment en holacratie qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un organigramme avec des fiches de poste, que ce n'est pas vraiment utile. Elle peut être comparée à la sociocratie car elle s'en inspire. Elle a aussi une gouvernance en cercle. Elle s'appuie aussi sur le double lien entre les cercles et sur la notion de consentement et d'élection sans candidat, qu'elle appelle élection sans candidat intégrative. On verra après pourquoi. Et donc, elle repose sur un système d'exploitation qui est formalisé dans une constitution qu'elle demande à faire signer par les entreprises qui mettent en place l'holacratie. Donc, c'est une discipline qui traite, vous allez voir, des façons de gérer le pouvoir, mais qui ne traite pas des relations humaines au travers de l'organisation. On va voir, le système est vraiment scindé. Donc, il s'appuie sur le corps de l'organisation, ses organes et ses rôles, donc vraiment dans le, comment dire, la réalisation et pas les besoins des humains et pas aussi les jeux psychologiques entre humains qui peuvent apparaître aussi dans les organismes, enfin dans les organisations. Et donc, eux, ils traitent de l'objection valide, hein, et ils ne tiennent pas compte, bien sûr, du côté subjectif d'une objection, puisqu'ils dissocient vraiment le côté humain du côté opérationnel. Voilà. Alors, il repose sur un pilotage dynamique d'essais et d'erreurs et de mouvements. Alors, le mouvement est apporté par ce qu'ils appellent une force d'évolution. La force d'évolution repose sur la prise en compte des émotions. Peut-être vous avez entendu cette traduction, hein, du latin emovere, qui veut dire ébranler, mettre en mouvement. L'émotion, c'est une énergie et toutes ces approches reposent vraiment sur la notion d'énergie. Les gens viennent mettre leur énergie à quelque chose. Là, vous êtes présent, vous venez mettre votre énergie à ce qui est en train de se passer. Et donc, une émotion, c'est une forme d'énergie qu'il faut prendre en considération pour permettre à l'organisation d'être toujours en mouvement. Pour autant, on ne cherche pas la solution parfaite quand on traite une tension, parce que l'idée, c'est vraiment de faire le prochain petit pas pour rester toujours en mouvement. Donc, on cherche ensemble, collectivement, de manière en intelligence collective, on cherche ensemble le meilleur moyen de faire un prochain petit pas à expérimenter pour rester en mouvement. C'est ça l'idée derrière. Donc, on ne cherche pas la solution, la meilleure solution. Et donc, on va voir, hein, ça repose sur quatre espaces, organisation, rôle, action. Donc, l'organisation, c'est où les réunions ont lieu. Les rôles, action, c'est le travail opérationnel que les rôles ont à exécuter. La notion de RH, ce sont les relations entre collègues, par exemple ce qu'on peut appeler le copinage, quand vous avez besoin de créer de l'affectif avec des êtres humains, ben c'est mis vraiment à part dans ce type d'organisation, et aussi un espace personnel pour les vacances, etc. Et là, vous avez la mise en forme. Donc à gauche, vous avez une structure traditionnelle en pyramide, ça vient de chez eux, hein, les schémas, hein. Donc, ils estiment que les managers sont des gens qui pensent et les collaborateurs n'ont pas de cerveau, c'est-à-dire qu'en gros, ils font ce qu'on leur dit, hein, tout simplement. C'est ça que ça veut dire derrière. Donc, il n'y a pas de coopération, pas d'agilité, pas de transversalité, mais par contre, il y a beaucoup de copinage qui fait que il y a des relations invisibles entre les humains, mais qui n'apportent pas de valeur ajoutée à l'organisation. Et c'est pour ça que sur la droite, il sépare vraiment les espaces. En haut, c'est la partie de ce qui est fait au sein de l'organisation, donc l'espace des rôles actions, mais aussi l'espace organisation où sont traitées notamment les tensions dans les réunions. Et donc sans parasitage affectif, parce que tout ce qui est affectif est traité en bas dans l'espace RH, donc la relation entre les membres. Et donc l'espace vacances, temps libre. Donc il y a une réelle distinction entre le côté humain et le côté organisation. Et d'ailleurs, ils disent dans leur approche, voilà, et la partie qui réalise l'opérationnel au sein de l'organisation est la partie qui est considérée comme vivante. Donc en dessous, c'est pas pris en compte. Et donc, oui, voilà, ils disent que c'est un contrat gagnant-gagnant parce que le salarié est payé pour venir être au service de l'organisation. Et donc, tout ce qui est relations interpersonnelles, c'est hors travail. Ils ne veulent pas en entendre parler, comme ça, ils ne se soucient pas notamment des besoins de reconnaissance. Ce n'est pas pris en compte à ce niveau-là. dans ce type d'approche. Donc, bon, après, il n'y a pas de jugement à avoir, hein, c'est une autre manière de fonctionner. Ça peut apporter aussi, des fois, on n'a pas forcément besoin de vivre du copinage. On peut être gêné par les jeux psychologiques. Moi, je sais que ça m'arrive des fois. Donc, ça peut être aussi, voilà, à expérimenter pour voir si ça apporte autre chose. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils font. Donc, deux systèmes d'autorité, hein, une gouvernance, bien sûr, participative, et deux systèmes d'autorité, donc autocratique, dans le sens que chaque rôle décide autour de son périmètre, et une recherche de consensus ensemble. Et puis après, bon, il parle de la description des rôles, hein. Chaque rôle a sa raison d'être, ses domaines qu'il contrôle, ses redevabilités, ce sont les activités récurrentes du rôle, qui est l'ADN du rôle, et donc celui qui porte le rôle est vu comme un leader de rôle. Et il peut y avoir aussi des politiques, c'est-à-dire des restrictions, des limites au rôle qui viennent s'ajouter, ils appellent ça les politiques. Et ils ont aussi donc les rôles structure double lien avec le leader du cercle et le second lien. On verra que la gouvernance adaptative, par exemple, ne le préconise pas. Elle en parle, mais elle estime que c'est pas forcément indispensable. Mais par contre, l'holacratie l'a aussi repris dans sa méthode. Enfin, eux, ils appellent ça une pratique exactement. Donc, vous avez trois types de réunions. La réunion stratégique qui permet donc de définir les priorités à réaliser dans les prochains mois, semestres. La réunion de gouvernance qui est plutôt mensuelle et qui permet notamment de faire évoluer, de créer, de faire évoluer les rôles et redevabilités de chacun. Et la réunion de triage qui permet justement de gérer les tensions dans l'opérationnel. Et ici, vous avez la mise en forme de ce qu'est l'holacratie, donc un nouveau système d'exploitation avec les deux côtés scindés entre l'organisation et le côté humain, un système d'autorité, un nouveau système d'autorité avec l'aspect donc autocratique où les gens prennent des décisions dans leur périmètre et la recherche de consensus, une structure organique distribuée en cercle. La gouvernance qui est centrée sur sa mission avec la raison d'être, et donc la constitution à prendre en considération. Par exemple, le secrétaire en holacratie, le secrétaire est le garant de la constitution. Donc, si par exemple ça ne se passe pas exactement comme on voudrait, ben c'est lui qui va trancher sur comment c'est censé. Donc, il doit maîtriser la constitution. Et donc, vous voyez, c'est vu comme une pratique et pas une méthode. Bon, je ne reviens pas sur le côté parce que ça, je l'ai déjà dit. Ensuite, vous avez la gouvernance partagée de l'UDN qui s'inspire de l'holacratie version 5.0. Alors, celle sur laquelle je me suis appuyée, la BD, c'est apparemment une version antérieure parce que l'holacratie aussi développe en permanence, en quelque sorte, son approche et donc elle est amenée à évoluer dans différentes versions. Et l'UDN, donc l'université du nous, qui expérimente, donc, qui met en œuvre et sème la gouvernance partagée, s'appuie sur la version 5 de cette constitution. Et eux, vous allez voir, ils axent leur approche sur le développement d'une posture de être et faire ensemble. Pour faire ensemble, il faut déjà être ensemble. Et donc, ils parlent d'un nous. Le nous, c'est un ensemble d'individus. Donc, c'est une somme de jeux souverains. Un jeu souverain, c'est un jeu qui est capable d'être assertif, de dire voilà ce qu'il a exprimé par rapport au ressenti dans son corps. Il va exprimer s'il est d'accord, s'il n'est pas d'accord, sa vision des choses. Donc c'est être assertif, mais pour autant, c'est pas être assertif pour être assertif, c'est assertif en étant responsable. Donc on prend la responsabilité et c'est pour ça qu'ils ont une dimension de profondeur parce que les personnes qui fonctionnent avec la gouvernance partagée de l'UDN, ce sont des personnes qui cherchent à être présentes dans l'ici et maintenant. Donc là, je fais référence à la sophrologie ou autre chose, hein, qui permet de définir justement cette présence à soi-même qui fait que on va pas prendre la parole pour prendre la parole, on va prendre la parole parce qu'il y a quelque chose qui émerge du centre. D'ailleurs, ils disent bien que c'est des interactions entre bon, chacun. Le collectif et le centre. Le centre, et d'ailleurs, ils préconisent de parler au centre. Parce que ce qui émerge, c'est ce qui émerge du tout, donc de l'ensemble des individus, donc du nous. Donc, Moi, par exemple, je peux être amenée à l'exprimer, mais si quelqu'un le réceptionne avant moi, il peut être amené à l'exprimer. C'est pas la peine que je perde mon énergie à prendre la parole, à essayer de me sentir supérieure, hein, en essayant de dire, bah, moi, j'ai une meilleure façon de voir les choses. Non, non. On prend vraiment dans l'ici et maintenant ce qui vient, ce qui émerge. Et donc, il faut prendre le temps de considérer l'émergence de ce nous qui va se réunir autour d'une intention commune. Donc, c'est un système aussi un petit peu plus familial. On verra dans la mise, enfin, dans le dernier slide que je vais vous proposer, de créer ce nous, de prendre le temps de partager des moments ensemble et de traiter les craintes et les peurs de chacun pour vraiment consolider ce nous. Et donc, de continuer à cultiver ce nous, hein, de pas arriver en mode pompier, s'il y a un conflit, un problème entre individus. On cherche ensemble de, on cherche de, on prend soin des individus pour faire ensemble qu'ils puissent fonctionner, qu'ils puissent continuer de fonctionner correctement ensemble. Et ils expliquent qu'un nous mature, hein, c'est ce qu'ils appellent le Graal. Ils appellent ça, c'est un nous équipe. Et un nous mature, c'est quand, l'équipe est capable de fonctionner, naturellement par rapport à ce type d'approche, et notamment ils prennent l'exemple du jazz band qui est capable de réaliser des moments magiques d'improvisation. Hein. Quand on est dans l'improvisation, justement, on est dans l'émergence de ce qui vient, on est synchronisé, et du coup, ça permet ce nous mature. Donc ça demande la confiance en soi, en la vie, en l'autre, de co-construire un cadre de sécurité avec des limites claires entre les individus, de faire évoluer ce cadre, hein, si besoin, qui est opposable à tous si jamais ça fonctionne pas correctement, de clarifier les processus aussi de décision, la charge relationnelle. Ils utilisent notamment des outils comme la CNV et la sociocratie, hein, pour gérer le consentement et faire en sorte que les gens interagissent le mieux entre eux. Voilà, et donc ils disent que ça repose certes sur une posture de coopération qui est une posture d'abord individuelle que chacun doit travailler avec lui-même et sur la posture en cercle. Pour pouvoir être en cercle, il est important d'être au clair avec soi-même. Voilà. Et puis aussi, j'ai bien aimé aussi, il parle de prédateurs se nourrir aux dépens d'un autre. Je me souviens d'une image qui m'avait marquée. J'observais à l'extérieur de chez moi et j'ai vu un orvet se faire manger par un oiseau. Et je me suis demandé, mais l'orvet, qu'est-ce qu'il fait là? Il est obligé de se laisser manger parce qu'il y a un oiseau qui l'a pris sous ses pattes, enfin, il n'a pas le choix, quoi. Et du coup, je me suis posé la question, quand on est dans cette situation-là, entre nous, entre individus, et qu'on a affaire à quelqu'un qui se nourrit aux dépens de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait comme l'orvée, on se laisse manger? Voilà. Je me suis interrogée, enfin, j'ai bien aimé cette approche parce que finalement, quand on observe, s'il n'y a pas d'équivalence comme le préconise la sociocratie, c'est que quelque part, on est dans une forme de prédation. Et j'ai bien aimé cette approche. Donc, le consentement, ils le décrivent en trois étapes, sans rentrer dans les détails, hein. Il y a d'abord une écoute du centre, ceux qui émergent du groupe, donc c'est l'émergence, hein. Après, c'est la convergence, donc la proposition qui est faite, qui est soumise au consentement des personnes pour vérifier si c'est la bonne proposition ou s'il faut en proposer une autre. Donc, il y a deux types d'objections selon la sociocratie, donc les besoins des individus de l'organisation. Et eux, au lieu de dire est-ce que ça peux-tu vivre avec cette proposition, ils proposent plutôt peux-tu faire avec? Voilà, donc après il reparle de l'élection sans candidat, il utilise aussi l'organisme vivant, et donc ils expliquent que la raison d'être, c'est quelque chose qui inspire, hein, le fait de contribuer, et il donne aussi l'équivalent de la notion d'âme, hein, c'est l'âme d'une organisation en quelque sorte. Donc, ils décident ensemble de distribuer le pouvoir. Ils ont aussi la notion de cercle supérieur-inférieur. Ils ont aussi une descriptive, hein, équivalente à l'holacratie, hein, vu qu'ils reposent sur l'holacratie pour la définition des rôles. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ils ont aussi quatre rôles structurels, qui est le lead du cercle. Alors, eux, ils appellent ça représentation. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé dans la lecture du bouquin parce que, ils font un chapitre en mode féminin, un chapitre en mode masculin. Et c'est intéressant de lire des livres comme ça et de voir ce que ça nous fait dans le cerveau de lire plutôt masculin ou plutôt féminin. Même quand on a un homme ou une femme, je trouve ça intéressant. Et donc, du coup, ils appellent leur rôle représentation, facilitation et pas facilitateur ou représentant. Et pareil, un secrétariat, voilà. Bon, après ça, je vais passer. Bon, ils parlent donc ici du processus d'élection intégrative que je vous ai parlé juste avant. Et donc, en fin de compte, le processus d'élection intégrative, c'est que quand quelqu'un a une préoccupation, c'est considéré comme une objection dans ce type de processus. C'est géré comme tel, en tout cas. Voilà, bon, ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Ils disent qu'une tension, hein, c'est un stress, et qu'on a plutôt tendance à laisser les tensions sous le tapis. Or, ils disent que si on ne traite pas des tensions, c'est comme si l'organisation était morte, parce que c'est ce qui donne la vie, les tensions, justement, à une organisation. Donc, il est important de le prendre en considération. Et aussi, ça, c'est la définition notamment de Robertson qui dit que c'est un écart entre ce qui est et ce qui devrait être une tension. Voilà, donc eux, c'est leur réunion. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce qu'ils n'ont pas de réunion stratégique. Voilà, ils abordent la stratégie autrement. Pour autant, ils en parlent hein, dans des vidéos, dans des Vimeo. Voilà, ils appellent la réunion. Bon, des fois, il y a des distinctions au niveau de la réunion de triage opérationnel. Vous avez la réunion de triage pour certains, opérationnel pour d'autres et de triage opérationnel. Bon, la gouvernance adaptative rapidement, donc c'est un framework d'agilité organisationnelle qui permet donc de se transformer et qui s'applique à une organisation pyramidale. Donc, alors là, ce type d'approche, donc, comme elle est appuyée sur une organisation pyramidale, elle garde donc l'aspect managérial. Donc les managers hein, continuent, comment dire, d'incarner la culture managériale qui est en cohérence avec ce type d'application. Et donc ça permet aussi dans une structure pyramidale de cohabiter harmonieusement avec cette auto-organisation qui est laissé au niveau de de l'opérationnel pour éviter, notamment, ils expliquent, un tout type d'anarchie. Voilà. Alors, eux, ils expliquent qu'ils n'ont pas de constitution. Leur approche, c'est de rendre explicites toutes les règles de fonctionnement de l'organisation. Et notamment, le manager, du coup, est invité à lâcher prise, hein, à développer la connaissance de soi, l'authenticité et la congruence, pour incarner une nouvelle culture du faire agile en étant agile. Donc, il doit être un référent hein, dans l'entreprise par rapport à cette manière de fonctionner. Voilà. Et eux, ils prennent en considération les deux besoins. Ils disent que pour fonctionner correctement dans un collectif, il faut que les individus aient leur besoin de sécurité nourrit. Le besoin de sécurité, c'est un emploi stable, rémunérateur, avec des perspectives de carrière, hein, ce qu'on appelle la sécurité psychologique. Et aussi la réalisation de soi, hein, comme la sociocratie. Et donc, ils ont six principes clés, qui est le sens partagé, qui est la raison d'être, des rôles clés hein, qui garantissent une autonomie, des acteurs responsables, avec éventuellement un cercle sponsor, si ça concerne un projet, un programme pour sécuriser les gens hein, au niveau de la protection du pouvoir et des permissions. Il propose aussi donc le blocage, la levée des blocages en traitant les tensions au niveau opérationnel ou gouvernance, des réunions efficaces avec un, parce qu'ils sont très processus dans la gouvernance adaptative, ils ont des processus pour tout. Et donc pour que la réunion soit efficace, il suffit de suivre le processus en quelque sorte. Et une approche pragmatique de laisser erreur qui permet donc la culture d'être en mouvement, hein, le prochain petit pas, comme je vous disais. Voilà. Donc le lead est chargé du coup de nommer les rôles avec l'accord du manager qui est garant de la charge de travail. Donc ça, c'est une différence avec les autres approches. Et il préconise aussi que le facilitateur soit élu par les membres parce que c'est celui qui facilite la réunion. Donc il faut que tout le monde ait envie d'avoir ce facilitateur plutôt qu'un autre. Après, le reste, c'est à peu près la même chose. Et aussi au niveau du double lien, eux, ils proposent donc, comme je vous disais, un seul lien parce qu'ils estiment que plus il y a de personnes, plus ça limite l'efficacité. Donc, ils proposent un seul lien qui fera la communication descendante et ascendante. Et voilà, ils ont leurs trois réunions, hein, qui est à peu près la même chose que les autres. Donc, ils proposent des étapes hein, pour définir leur approche. Donc, bien définir la cause du changement, pourquoi on veut changer, bien définir sa raison d'être, hein, donc se mettre à l'écoute de la source. Hein. Qu'est-ce qu'on peut apporter au monde, hein, en quelque sorte? Définir et affecter les rôles avec une fiche de rôle, hein, le but du rôle et les redevabilités à réaliser et la légitimité. Donc là, il s'intéresse aussi aux compétences des gens hein, qui sont légitimes pour porter ce rôle-là. C'est pour ça aussi qu'il y a le lien qui est fait avec le manager. Ils mettent en place des processus, on va les voir rapidement juste après. Et donc, ils estiment que ce type d'approche, ça prend du temps et je suis assez d'accord avec ça. C'est en expérimentant qu'on s'aperçoit la valeur ajoutée que ça apporte et le changement que ça apporte. Donc, il est important de prendre le temps de maturité pour ce type d'approche. Et donc, ça, c'est les différents processus qu'ils proposent. Ben, c'est des processus, en fin de compte, pour réaliser les différentes réunions opérationnelles de gouvernance, le triage en prenant en compte les tensions, la synchronisation, la décision par consentement qui est issue de la sociocratie. L'advice process, là, c'est quand on a quelque chose à faire évoluer, ben, on va pas attendre une réunion, on va se réunir entre les personnes qui sont directement concernées, les experts, pour pouvoir faire avancer les choses. Donc ça, c'est inspiré des entreprises libérées. Le check-in, hein, le check-in, c'est quand vous arrivez dans un espace, vous laissez le temps à chacun, voilà, de se poser, de dire comment il se sent pour être dans l'instant présent. Voilà. Donc là, je vous ai mis des tableaux qui sont intéressants à voir quand même. J'ai réussi à faire quelques petits tableaux. Voilà, qui peuvent être utiles à vérifier après si ça vous intéresse. Et donc, si vous avez besoin d'aller vers ce type d'approche, observez déjà dans votre environnement si vous avez des signaux faibles, par exemple des communications défaillantes, des tensions qui sont mises sous le tapis, ou alors des gens qui quittent l'environnement parce que ils ne trouvent pas à exprimer qui ils sont, donc ils vont le faire à l'extérieur tout seuls. Une fois que vous avez observé ces signaux, donc le pourquoi, hein, vous voulez vous transformer, posez-vous les bonnes questions avec honnêteté pour choisir le module qui vous, le, pardon, la méthode qui vous correspond, voire pour vous créer votre propre méthode. Et donc, une fois que vous avez fait ce travail, vous allez pouvoir vous positionner. Est-ce que vous êtes plus dans un environnement esprit d'entreprise avec une hiérarchie, et là, vous allez plutôt aller vers l'holacratie ou la gouvernance adaptative, qui est plus dans un cerveau gauche de logique parce qu'il faut être dans l'action, il faut des résultats, il faut de la performance, ou est-ce que vous êtes vraiment dans un esprit plus familial où vous avez le temps de vivre les choses, de rêver les choses et donc d'aller doucement pour créer votre collectif et faire des choses ensemble. Par exemple, au niveau associatif, des choses comme ça. Donc, posez-vous les bonnes questions ou tentez de mettre en place un système sur la droite dans un système pyramidal. Hein, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, posez-vous, est-ce que vous avez besoin d'une méthode carrée ou est-ce que vous allez arrondir cette méthode avec les choix qui seront pris entre les individus qui vont réaliser ce type d'approche. Voilà. Et donc, Biover, c'est important pour moi de le mettre. Donc, vous pouvez trouver d'autres définitions de c'est quoi la sociocratie, l'holacratie, tout ça sur Internet. Hein, il y a plein d'informations. Je vous ai mis aussi le lien pour la personne source. Et puis ça, c'est tous les sources parce que c'est important comme je vous dis, les gens qui font, il faut les respecter. Donc ça, c'est tous les sources des images que j'ai utilisées qui ne sont pas de moi. Voilà, j'ai terminé. Je pense que j'y suis arrivée. Merci de votre écoute.